Tu connais la phrase de Lao Tzu sur l'inattendu ? Aveugle, nous suivons le sentier de la vie.
Pas trop avoir les jetons. De toute façon, on y va tous. C'est la seule chose dont on soit sûr. Le problème, c'est de savoir à quelle vitesse on y va.
Quelle bonne surprise !
Allez, viens, toi. J'ai hâte de parler.
Écoutez, mon vieux, vous auriez pu trouver plus simple.
Bonjour chères auditrices et chers auditeurs de Syllabe, nous sommes le mardi 13 novembre, installez-vous, mettez-vous à l'aise, vous êtes dans l'inattendu, votre quotidienne sur Syllabe. Aujourd'hui, avec moi pour animer, Julia. Bonjour Julia.
Bonjour Florian, ça ne vous a peut-être pas échappé, mais dernièrement nous avons célébré le centenaire de l'armistice. Et dans le Labomatique, nous avons décidé de mettre en avant les avancées de la médecine et de la science durant la Grande Guerre.
Ensuite, nous écouterons le reportage de Brittany. Elle est partie à la rencontre de la rappeuse Lucie Michel, alias l'Original K.
À 18h, ce sera toute l'actualité campus avec le Memento.
Et juste après, nous serons rejoints par Margot Lefebvre et Agathe Flock pour les Chants du Blône.
Et pour finir, nous accueillerons ensuite dans notre studio 5 étudiants en deuxième année de masso-kinésithérapie à l'IFPEC Rennes. Ils viendront nous parler de la soirée électrothérapie qu'ils organisent.
C'est parti pour 1h30 d'inattendu, Excelsior. On commence avec le Labomatique. Julia, c'est à toi.
Le Labomatique.
L'émission scientifique.
Denis Gutleben est historien et attaché scientifique au comité pour l'histoire du CNRS. Il était en conférence à l'Espace des sciences mardi 6 novembre pour parler de la guerre 14-18 sur le thème des savants s'en vont en guerre. Avec Claire, nous sommes partis l'interviewer. On l'écoute tout de suite.
La guerre de 14, je ne l'ai pas connue. Je veux dire, la tranchée boueuse, l'humidité qui transperce les os, les gros rats noirs en pelage d'hiver qui se faufilent, entre des détritus informes, les odeurs mélangées de tabac gris et d'excréments mal enterrés, avec, pour couvrir le tout, un ciel métallique uniforme qui se déverse à intervalles réguliers, comme si Dieu n'en finissait plus de s'acharner sur le simple soldat. C'est cette guerre-là que je n'ai pas connue.
Denis Gutleben, je suis historien des sciences, historien de la recherche contemporaine, donc 19e, 20e siècle, et je travaille au Centre national de la recherche scientifique, le CNRS. Pourquoi l'histoire de la recherche ? En fait, c'est parce que c'est un domaine qui m'a assez rapidement intéressé de voir. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est notamment l'histoire des politiques, des institutions de recherche, mais aussi l'histoire des scientifiques, des chercheurs, des savants, comme on disait avant, dans la société de manière générale, voir les interactions, les projets qu'ils peuvent lancer, ceux qui aboutissent, ceux qui n'aboutissent pas. Donc c'est vraiment par passion pour ce domaine de recherche, de manière générale, et puis plus particulièrement pour l'établissement pour lequel je travaille, donc le CNRS, parce que je trouve qu'il a une grande, une riche, une belle histoire. Il a été créé en octobre 1939, il y a 80 ans bientôt, et du coup, remettre cette histoire un petit peu en valeur, ça, moi je trouve ça plutôt intéressant. Alors la période 14-18, on a tout de suite une réaction. Quand on pense à la recherche scientifique en 14-18, on pense au gaz de combat et à la recherche en chimie. Et c'est effectivement l'aspect qui a sans doute été le plus développé. En tout cas, c'est celui qui a laissé le plus de traces dans nos mémoires, parce que ça a été quelque chose d'assez tragique. L'utilisation de ces gaz, ça a eu des répercussions absolument énormes sur les gens, sur les constructions, sur tout ça. Donc ça a marqué notre histoire. Mais c'est évidemment pas la seule implication des scientifiques. Et vous citiez à l'instant la médecine, c'est aussi un très bon exemple. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été réalisés en médecine et en chirurgie notamment pendant le conflit, et on pense évidemment aussi à quelque chose qui a beaucoup marqué les contemporains et qui continue de nous marquer jusqu'à aujourd'hui, c'est la chirurgie faciale pour les fameuses gueules cassées.
Un autre.
Tirez!
Les gueules cassées, c'est en effet une image assez forte. C'est une image assez forte qu'on essayait de combattre à l'époque parce que c'était aussi une question de maintenir un petit peu le moral dans la population et renvoyer à l'arrière des soldats qui étaient... Alors non seulement il y a eu énormément de morts dans cette guerre, donc déjà c'était une tragédie terrible, mais aussi renvoyer en plein milieu de la population civile des soldats à ce point défigurés, ça pouvait atteindre très fortement le moral de l'arrière. Alors, le moral de l'arrière, c'était important aussi pour maintenir la pression sur le front. Donc ça a eu des conséquences assez importantes. Les travaux qui ont été menés dans ce domaine-là, ils ont été poussés assez loin et assez rapidement, avec des résultats quand même assez positifs. Et si ça continue quand même à nous marquer aujourd'hui encore, c'est que ces travaux, en plus, ils ont été accompagnés de pas mal de... on utilisait beaucoup la photographie, justement, pour voir l'évolution de la médecine et du soin apporté aux gueules cassées. Et du coup, ça a laissé beaucoup de traces... qu'on peut encore voir aujourd'hui, et c'est pour ça que je pense que ça continue à nous marquer énormément. Si on parlait comme ça, de manière un petit peu dans le vent, des gueules cassées, ça ne nous évoquerait rien. Ça nous évoque beaucoup parce qu'on peut encore voir quelles sont les tragédies qui étaient ces gueules cassées. Alors, l'image du savant, elle était très positive jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'était une époque où on parle souvent de scientisme, c'est-à-dire qu'on attendait vraiment tout de la science, qu'elle allait résoudre tous les grands problèmes de la société, toutes les difficultés auxquelles était confronté l'être humain. Et il y avait vraiment cette attente qui était partagée à la fois par les scientifiques eux-mêmes et par les politiques beaucoup, et puis par une grande partie de la population. Et puis la Première Guerre mondiale, finalement, a montré certains de ces scientifiques, pas tous évidemment, mais c'est souvent en effet les chimistes qui sont mis en cause à ce moment-là, un petit peu comme des apprentis sorciers capables de mettre au point des armes terriblement destructrices. Alors est-ce que ça a changé l'image des scientifiques dans la population, la représentation qu'on s'en fait? Pas forcément, parce que dans chaque communauté nationale, finalement, on voyait ces scientifiques comme en train de travailler pour mettre au point des armes. Alors certes redoutables, mais en même temps pour garantir la victoire. Donc finalement, ça n'a pas altéré la confiance qu'on avait dans les scientifiques. Et d'ailleurs, ça se voit au lendemain en France, notamment de la Première Guerre mondiale. On commence à organiser la recherche dans notre pays et donner plus de moyens à ces scientifiques parce que, certes, ils ont mis au point des armes, mais en même temps, ils ont prouvé leur utilité. Donc il y a tout un débat qui se met en place à partir des années 20 en France et qui va conduire d'ailleurs en 1939, donc quand même longtemps après, mais à la veille d'un autre conflit, à la création du CNRS, qui va contribuer un peu à organiser cette recherche dans pays.
Quand au bout de 8 jours, le repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu aussi.
Pour la Première Guerre mondiale, alors il y a ce qui marque, on va dire, négativement presque, hein, c'est l'allemand Fritz Haber, notamment le père des gaz de combat. Et ça, c'est une trajectoire qui marque parce qu'à la fois, c'est lui qui a sans cesse, tout au long du conflit, essayé de trouver des agents de plus en plus mortels ou de plus en plus incapacitants pour les troupes ennemies. Et en même temps, qui marque pour la suite parce que Fritz Haber était un savant juif. Il n'a pas vécu la Seconde Guerre mondiale, mais malgré tout, ces travaux ont été réutilisés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est quelque chose qui marque quand même beaucoup en termes de trajectoire. En France, il y a plusieurs scientifiques que je pourrais citer, mais il y a Marie Curie, évidemment. Enfin, Marie Curie et la radiologie, faire les images radio sur le front avec, en utilisant ces véhicules, ces postes de radio mobiles, les fameuses petites Curies, ça marque beaucoup. Paul Langevin, qui est le physicien d'ailleurs très proche de Marie Curie et qui a mis au point le sonar pendant la Première Guerre mondiale. Et puis il y en a un que je cite évidemment toujours, c'est Jean Perrin. Jean Perrin, c'est un physicien. Il a participé à un certain nombre de travaux pendant la Première Guerre mondiale, mais c'est aussi lui qui va recevoir le prix Nobel de physique en 1926, donc après le conflit, mais qui va surtout mettre en place une croisade dans les années 30 qui va mener à la création du CNRS. Jean Perrin, c'est le père fondateur.
Seuls les grands hommes entrent au Panthéon. Aujourd'hui, une femme d'origine polonaise a été honorée pour son travail, son génie, son courage. Pierre et Marie Curie, un couple, un prix Nobel partagé, une vie au service de la science. 14 années après sa prise de fonction, François Mitterrand est revenu au Panthéon pour présider cette cérémonie de transfert de cendres aux côtés de Lech Walesa, devant la famille du couple Curie et en présence du gouvernement français, de l'ensemble de la communauté scientifique. Le président français, artisan de cet hommage, a souligné particulièrement la symbolique de son geste.
Au moment où le pays s'incline devant les cendres de celle qui fut, en tant que femme, la première docteure en sciences, la première professeure en Sorbonne, la première à recevoir le prix Nobel, je forme le vœu au nom de la France, que partout dans le monde progresse l'égalité des droits.
Les portes de l'histoire se sont ouvertes aujourd'hui sur ce couple mythique. Pour le profane, Pierre et Marie Curie, c'est l'isolement du radium et ses applications dans le traitement notamment du cancer. Mais c'est aussi le début d'une aventure scientifique. Une aventure qui peut engendrer le pire et le meilleur. Le message du président français aujourd'hui sera de dire « Cette aventure doit être maîtrisée et non pas redoutée ».
Alors les mêmes efforts, alors si c'est les efforts des scientifiques, je pense que leur travail est plus ou moins constant en temps de paix ou en temps de paix ou en temps de guerre. Si c'est les efforts des politiques, oui, ça c'est quelque chose d'assez évident, c'est-à-dire qu'au moment où la guerre éclate et où on s'aperçoit... Alors, pour la 14-18, c'est un peu particulier, c'est qu'au début, et en France notamment, on n'a pas beaucoup investi dans la science parce qu'on pensait que ça allait être une guerre courte, qu'on allait très vite gagner, qu'on avait la meilleure armée du monde. Et puis très vite, quand c'est avéré faux, on s'est dit on va investir dans la recherche. Et là, on investit massivement parce que on réussit à mobiliser tous les moyens pour le faire. En revanche, quand la paix revient, à partir de 1919, il a fallu longtemps pour retrouver les moyens à mettre dans la recherche. Il a fallu une longue croisade, il a fallu une longue croisade de Jean Perrin notamment, que je citais tout à l'heure, pour sensibiliser les politiques à la cause de la recherche scientifique et aux moyens qu'il faut nécessairement y mettre pour qu'elle avance. Donc ça dépend de quel point de vue on se place au final. Ouais.
Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes, c'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.
C'est pour montrer un petit peu au travers de mes travaux l'implication très étroite que peuvent avoir les scientifiques dans notre société, puisqu'on a souvent tendance à faire des savants, comme on les appelait à l'époque, ou des chercheurs comme aujourd'hui, ou des enseignants-chercheurs, des gens qui vivent un peu dans leur tour d'ivoire coupé de toutes les réalités, et on s'aperçoit que c'est jamais vrai, quelle que soit la période, période positive, puisqu'ils apportent, ils peuvent apporter beaucoup, on le voit tous les jours aujourd'hui encore à la société, et puis apport négatif entre guillemets pendant les périodes de conflit, c'est-à-dire c'est toujours des gens qui sont plein pied dans la société qui les environne, qui essaient de répondre aux questions qu'on leur pose, et c'est pas du tout des gens retranchés qui vivent complètement éthérés sur leur nuage. Donc c'est un petit peu ça que j'essaie de montrer, plus que de la mémoire, c'est de montrer vraiment ce rôle des scientifiques dans la société. Alors on dit souvent que l'histoire, ça sert à justement maintenir cette mémoire, à éviter qu'on reproduise les erreurs du passé. Moi, je suis plus sceptique par rapport à ça. C'est très important de connaître cette histoire, de se mettre en garde par rapport aux dérives qui a pu avoir lieu dans le passé. Mais enfin, l'être humain étant ce qu'il est, je pense qu'il hésite jamais, même en connaissant très bien l'histoire, à replonger les deux pieds et la tête la première dans les grandes erreurs qu'il a déjà commises. Donc je ne suis pas un optimiste béat face à ça, mais néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il faut tout ignorer du passé et puis plonger encore une fois tête baissée dans ses erreurs.
les guerres ont modifié les sociétés de leur temps, leurs idées, leur conception du monde. Mais jusque-là, aucune guerre n'a eu le même impact que la guerre de 1914 sur les sciences et sur la vie scientifique.
L'émission scientifique.
C'était Denis Gutleben sur les progrès scientifiques pendant et après la guerre 14-18. Ce soir à 20h30 à l'Espace des Sciences a lieu une conférence sur Pierre Curie avec Hélène Langevin-Joliot, petite-fille de Pierre et Marie Curie et directrice de recherche émérite au CNRS. On fait une pause musicale.
Bientôt 8 ans que ce jeu m'acharne. Mais moi je suis pas un chance, je suis un jeune acharné. Je dors plus cette année, j'ai déjà perdu sans nuit. Pourquoi tous les enfoirés frustrés veulent me faire des ennuis? Comme si je méritais pas mon siège. Comme si j'étais né pour rester debout. Je fais une prière et je comme un cierge. Tout nu sur le trône, le tissu royal me caresse les deux bouts. La suite sera chaude, genre plus je rappe, plus j'ose chanter. Plus le temps passe, moins je chôme, chante, les choses changent. Ça pue le succès, bouge si ce parfum la t'embête. Je tire vers la tempête, j'attends la fin de la tempête. J'aurais encore décuplé mes forces dans l'heure. Je pense à mon futur, j'ai une grosse bosse dans le caleçon. Je m'en suis bien sorti pour un branleur. Je secoue ma canne et tout l'océan me ralentit. J'ai pris cette voie hier au pif. Je peux plus me retourner comme un hiéroglyphe. Donc je fonce tout droit, je connais la terre, je veux découvrir les cieux. Je fais ce que j'aime, j'aime ce que je fais, je suis pas prêt d'ouvrir les yeux. Ma légende m'emplit, les gens m'applaudissent comme si j'étais doué. Dites-leur qu'au début j'avais aucun talent. 7 ans plus tard, j'ai plus aucun talon. D'Achille, je suis né pour briller, pas pour rester sale. Désolé, rien ne peut empêcher ça. À la base, j'ai pas de talent, j'ai pas de don, mais personne ne reste esclave de son destin. Tous les profils, tous les types de pensées. Ma rage est d'humeur festive ces temps-ci. J'ai la bouche jetée, personne peut m'interdire de danser. Bientôt je me transforme en homme braise. Ça m'est venu comme une envie de pisser après une bonne baise. À mon ancienne vie décousue, ma câble. J'ai plus le cul entre deux chaises, j'ai mis les couilles sur la table. Je veux faire le bien, mais parfois j'y pense après. J'ai bien écouté tout ce que ma madre m'a dit. Des belles phrases dignes d'être encadrées. J'oublierai tout dès la première montée d'adrénaline. Mais les gens m'applaudissent comme si j'étais doué. Dites-leur qu'au début j'avais aucun talent. 7 ans plus tard j'ai plus aucun talon. D'Achille, tu n'es pour briller, pas pour rester sale. Désolé, rien ne peut empêcher ça. À la base j'ai pas de talent, j'ai pas de don. Mais personne ne reste esclave de son destin.
Je suis né pour briller, pas pour rester sale. Le jeudi 31 octobre, j'ai rencontré la rappeuse Lucie Michel, alias l'Original K, au Crèche Bretagne de Rennes. Au programme de cette interview, Lucie nous parle de son combat pour dénoncer les conditions des enfants atteints d'autisme et de son engagement associatif auprès des mamans Courage.
Bonjour, nous sommes avec Lucie Michel. Bonjour à vous.
Bonjour.
Pouvez-vous, dans un premier temps, vous présenter à nos auditeurs qui ne vous connaissent peut-être pas encore ?
Alors, j'ai 36 ans. Je suis maman Courage. J'ai un enfant gravement handicapé. Je suis chanteuse également. J'utilise ma musique pour sensibiliser les gens au handicap et essayer de faire bouger les choses.
Vous avez quand même un parcours assez atypique puisque, comme vous l'avez dit, vous êtes présidente de l'association Maman Courage. Et d'ailleurs, en quoi consiste votre rôle dans l'association ?
Donc, le collectif Les Mamans Courage a été créé en 2015 par un besoin de parler avec d'autres maman de tous les problèmes qu'on pouvait rencontrer et de s'entraider. Et l'association a été une suite logique, donc ça a été inauguré cette année. Et donc il fallait avoir le statut d'association pour pouvoir entamer des actions, clairement. Voilà, c'est le but.
Au-delà de ça, vous êtes aussi rappeuse. Comment se passe ce mélange entre votre engagement associatif auprès de Maman Courage et de votre empreinte artistique dans la musique ?
Donc je chante depuis 20 ans. C'est un besoin pour moi de chanter ce que je ressens et d'extérioriser. Donc après, ça a été une suite logique, tout ça. Et c'est ma façon à moi d'agir, à ma façon. C'est personnel, mais ça rejoint beaucoup, beaucoup de personnes derrière.
Il y a un mois, il y a eu un clip qui a suscité un déferlement autant médiatique que public, où vous, justement, mettez en lumière la défaillance de l'État et du système qui ne vient pas en aide à votre fils.
Oui, alors le titre, c'est hashtag Inclusion ferme ta bip. Donc c'est un hashtag qui a été créé par une maman sur les réseaux sociaux pour dénoncer tous les problèmes d'inclusion qu'il pouvait y avoir. Et comme mon fils n'avait pas de rentrée scolaire, ni de place, ni d'école, j'ai fait ce morceau hors projet. Donc c'est pas un morceau qui est dans un album, c'est un single. Donc ça a été fait sur le coup de la colère, c'était une idée et on a participé, on s'est réunis avec plusieurs mamans pour mettre au point ce morceau. Et voilà, donc il est important. Après, oui, je suis contente qu'il ait été entendu. Le problème, c'est qu'on n'a toujours rien derrière. Il faut que ça bouge, quoi.
Quelles furent les réactions suite à, justement, ce buzz sur votre chanson ?
Alors, j'ai été inondée par les journalistes. Ça a été très impressionnant parce que c'était tous les jours, toute la journée, de très tôt le matin à très tard le soir. Donc toutes les chaînes de télé m'ont appelé, les radios, les journaux. J'ai essayé d'honorer au maximum parce que c'est important, parce que là il y a une vraie cause derrière et c'était absolument pas prévu de faire le buzz. Mais bon, j'ai envie de dire tant mieux parce que le message a été entendu et tant mieux. Voilà, donc ça a été difficile hein, pour moi de répondre à toutes les demandes, mais j'ai fait mon maximum. Je sais que ça a été même jusqu'à l'étranger et il y a eu énormément d'articles et de passages.
Vous vous adressez un peu directement à Macron et à la politique. Est-ce qu'il y a aussi eu des retours à cette échelle ?
Alors, je n'ai pas eu de retour de la part de notre président, qui n'a absolument pas bougé le petit doigt à ce niveau-là. Donc, j'espère avoir un retour et même, j'ai envie de dire, j'exige d'avoir un retour pour moi et pour toutes les personnes concernées. Et j'ai eu le cabinet de Mme Cluzel au téléphone il y a un mois, qui m'a laissé un message pour me dire qu'ils allaient rapidement faire quelque chose, mais j'y crois pas et ça fait 3 ans qu'on me dit qu'on va faire quelque chose et il se passe toujours rien. Donc.
Vous défendez vraiment le défaut de la prise en charge des enfants autistes. C'est beaucoup plus large, des enfants handicapés. On le voit bien dans la législation, il y a des lois normalement qui stipulent que les handicapés, les autistes ont le droit d'intégrer une école normale. Sauf que la réalité du terrain est loin de représenter la législation et on l'aura vu, seulement 20% des enfants atteints d'autisme bénéficient d'une scolarité en milieu scolaire ordinaire, avec des conditions plus ou moins précaires, puisqu'il n'y a pas de personnes adaptées. Comment vous le vivez, vous, en tant que mère d'un petit garçon ?
Alors, moi, comment je l'ai vécu déjà, parce que j'ai inscrit mon fils à l'école. Le jour où j'ai été voir le directeur de l'école pour inscrire mon fils, on m'a dit immédiatement ça va pas être possible. Et donc j'ai dit bah vous ne savez pas de quoi souffre mon fils, vous ne connaissez même pas son problème, donc c'est moi du coup qui ai dit ça va pas être possible et du coup je l'ai inscrit. C'est vrai que déjà l'éducation nationale pour des enfants qui vont bien, il y a beaucoup de progrès encore à faire, mais alors pour des enfants handicapés c'est vrai que c'est très compliqué. Donc mon fils a eu une AVS, il était accueilli la première année une heure par semaine dans une classe vide avec les volets fermés et interdiction d'aller dans la cour de récréation. Donc je considère pas du tout ça comme de l'inclusion mais plus comme de la maltraitance. D'ailleurs il n'a jamais été agressif avant cette période. Et depuis, il l'est. Donc c'est vrai que y a des progrès. Après, je connais beaucoup de mamans dont les enfants vont 3 heures par semaine à l'école. C'est pas de l'intégration du tout. Au contraire, quand on est plongé dans le milieu de l'autisme, on sait que ces enfants ont besoin de plus de temps d'adaptation pour faire les choses, pour s'adapter, voilà. Et donc, donner moins de temps, en fait, c'est pas logique. Il faudrait donner plus de temps.
Au-delà de l'exclusion sociale, il y a aussi une inégalité sociale, dans le sens où, au final, c'est les parents qui auront le plus de moyens, qui vont pouvoir solliciter des aides particulières pour leurs enfants, comme des auxiliaires de vie spécialisés. C'est un problème, finalement, problème qu'on doit alerter.
Alors, vu que mon fils ne bénéficie pas de la prise en charge adaptée auquel il a le droit, ça me reviendrait à moi actuellement à environ 50 000 euros par an en comptant les charges patronales pour une prise en charge à temps complet, spécifique et adaptée à ses besoins. Donc il est évident que ne pouvant pas travailler, c'est juste impossible. Donc il y a beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là parce qu'après la prise en charge elle peut être faite à domicile, pas forcément dans des établissements où il y a du 1 pour 4, 1 pour 5, 1 pour 7 enfants des fois. Et voilà, dans des cas spécifiques comme celui de mon fils, il faudrait vraiment que la prise en charge soit financée, puisque c'est la loi et c'est son droit.
Dans le temps, une cicatrice à vie, un combat permanent. Alors si vous voyez une maman qui a un enfant qui souffre, aidez-la. Comprenez que elle aussi, elle souffre.
Seule l'expérience connaît la vérité. Et elle est triste, cette réalité. L'épilepsie fout en l'air ma vie. Elle fait souffrir mon enfant. Et personne ne comprend ma détresse.
Ma détresse. Non, personne ne la comprend. Et personne ne comprend. Pays où la médecine est corrompue, où nos enfants sont des cobayes, personne ne cherche à les soigner, personne ne cherche. Mais si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Alors les mamans cherchent et elles trouveront, parce qu'elles n'ont pas le choix, car
seule l'expérience connaît la vérité. Et elle est triste, cette réalité. Elle fait souffrir mon enfant et personne ne comprend ma détresse.
Je suis toujours avec Lucie Michel. On vient d'écouter Ma détresse. Pouvez-vous nous dire ce que vous ressentez à travers cette chanson ?
Donc cette chanson Ma détresse est une chanson importante pour moi et pour plein d'autres mamans d'enfants épileptique. Face à l'épilepsie, on est blessé et on est en détresse. On a besoin de recherche, on a besoin de soigner nos enfants, on a besoin de vivre, on a besoin de respirer, on a besoin de sortir de cet enfer, clairement. Et Ma détresse, c'est une chanson dont je suis très fière et qui m'a fait beaucoup de bien, et je pense qu'il fait beaucoup de bien à plein d'autres mamans, parce qu'elle peut exprimer notre détresse auprès de personnes qui ne la comprennent pas forcément, et peut-être qu'ils la comprendront un peu mieux et qu'ils nous aideront.
Quelle est la vision de l'handicap que vous voulez transmettre à travers votre musique, au final ?
Très bonne question. J'aimerais que les gens comprennent que moi, je n'étais pas du tout confrontée au handicap avant. Je ne connaissais pas du tout ni l'épilepsie, ni l'autisme. Et ça a fait basculer ma vie du jour au lendemain. Et ça m'a fait grandir, je pense. La difficulté, les épreuves, la différence, c'est une richesse. Et j'aimerais que les gens comprennent qu'il ne faut pas avoir peur, en fait, de ce qui est différent, et qu'il faut plutôt s'en rapprocher.
Quels sont vos projets futurs à venir pour vous et votre fils ?
Alors, les projets sont toujours sauver sa vie, essayer de le soigner, arrêter l'épilepsie, qu'il puisse parler, qu'il puisse être propre, qu'il puisse être accepté, qu'on puisse sortir de chez nous, aller au parc. C'est un combat jusqu'à la mort peut-être, pour lui et pour les autres. Pour réussir à avoir au moins le droit de vivre. Ma musique actuellement, c'est ce qui me permet d'extérioriser et un peu de me sauver moi-même au fond. C'est ma thérapie. J'ai un autre album qui est en cours, qui s'appelle Guerrière et qui devrait arriver début d'année prochaine.
Merci à Lucie Michel, alias l'Originalka, pour ce témoignage. On le rappelle, l'association SOS Handicap recherche toujours des bénévoles.
Et maintenant, le memento.
Memento.
L'actu campus.
Et pour commencer, Epitech organise une table ronde autour du thème de la mixité dans le numérique, influencée au féminin, co-organisée avec Emma, accueillera Dipti Shunder, présidente d'Emma, et des youtubeuses rennaises Charlotte Quinn et Friendly Boy Beauty. C'est le 14 novembre à 18h sur le campus de Beaulieu.
Le 17 novembre, c'est la journée européenne des collections universitaires. Zoologie, géologie, instruments scientifiques anciens, la collection de Rennes, c'est 1 300 000 spécimens qui constituent un patrimoine exceptionnel que vous pourrez découvrir ce jour-là. La réservation est nécessaire pour cette journée du 17 novembre avec plusieurs visites guidées. Infos et inscriptions sur le site de Rennes, rubrique culture.
Memento, l'actu campus.
Durant la matinée du 17 novembre, l'université Rennes accompagne actifs salariés et demandeurs d'emploi dans leur projet de reprise d'études. Samedi 17 novembre, le service formation continue ouvre ses portes au public souhaitant en savoir plus sur les formations et les services proposés.
Et pour finir, aujourd'hui, on parle d'identité plurielle pour le mardi de l'égalité. Au tambour est projeté Ouvrir la voie, un documentaire d'Amandine Gay. La projection sera suivie d'un débat animé par Claire Le Sacher, docteur en sciences du langage, Christelle Gomis, Marie Da Silva, fondatrice de l'agence d'Empowerment and Caliworks, et Aurélia Descordé-Gonzalez. C'est gratuit et c'est de 17h30 à 20h30.
Memento. L'actu campus.
Nous accueillons tout de suite Agathe et Margot, respectivement service civique et administratrice pour le projet Les Champs du Blône, une exposition qui se déroulera à l'hôtel de Rennes Métropole, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 novembre. Bonjour à vous.
Bonjour.
J'avais une première question concernant la philosophie du projet en fait. L'idée, c'était donner la parole aux habitants. C'est un projet qui date de 2016, qui a abouti cette année. Donc un gros travail sur 3 ans, avec un travail au quotidien au cœur des habitants, avec une volonté de vouloir affirmer, de trouver les trésors cachés, c'est ça, du quartier. Est-ce que derrière, il y avait une volonté de renforcer des liens, mais est-ce que c'était aussi donner la parole à des personnes qui ne l'ont pas habituellement ?
Oui, alors effectivement, l'idée, c'est de mettre en avant, en fait, la multiculturalité du quartier du Blône, qui est l'un des quartiers les plus riches de culture au niveau de la ville de Rennes. Donc effectivement, créer par ce biais-là aussi du lien social, faire en sorte que les habitants se rencontrent dans le cadre de notre projet avec des événements qui ont ponctué à chaque fois la création des portraits sonores, permettre aussi à chacun d'entendre les histoires des autres, peut-être du voisin de palier, créer du lien dans ce sens-là. Ouais.
Donc une exposition de portraits sonores, parce que je ne l'ai pas dit dans la première phrase, donc c'est important quand même.
Alors là, du coup, oui, l'exposition qui est à l'hôtel de Rennes Métropole, c'est à la fois sonore, mais aussi en images, puisqu'en fait, il y a donc les portraits sonores qui ont été réalisés durant là, les 2 ans du projet, mais également une exposition photo qui a été réalisée par Sarah Le Quéré, qui était en médiatrice du projet en service civique chez nous l'année passée, et qui nous a permis aussi d'avoir une belle expo photo des habitants qu'on a interviewés, justement.
Ars Nomadis favorise des créations in situ. Pourquoi ce type de création est-il important ?
L'idée dans l'in situ, c'est pour nous vraiment se réapproprier l'espace public, sortir, permettre à chacun de prendre une place sur le territoire, et puis amener aussi la culture à l'extérieur des institutions.
C'est un projet qui s'inscrit aussi dans le cadre de la réhabilitation, en fait, du quartier du Blône et du réaménagement. Donc c'est aussi penser un projet de création sonore vraiment pour un territoire.
Et justement, comment concrètement ça s'est passé ? C'est vous qui allez vers les habitants, qui les contactez, ou il y a un appel à témoins, si je peux dire ?
Ça s'est justement vraiment fait in situ, dans la rue. On a eu des temps de rencontres où on était avec notamment la créatrice sonore Laure Châtrefou. On a sillonné le quartier pendant plusieurs jours à aller parler aux gens, leur exposer le projet, voir si ça les intéressait tout simplement de nous apporter un peu des petits bouts de vie. Et puis à partir de là, du coup, de nombreuses rencontres. On a eu aussi la chance d'être accompagné par pas mal de partenaires sur le quartier qui nous ont permis de rencontrer aussi des habitants. Et puis des personnes qui travaillent sur place et qui ont bien voulu nous raconter leurs histoires.
Justement, vous travaillez de très près avec le Conservatoire de Rennes. Et les portraits sonores mêlent témoignages et réinterprétations musicales.
Ouais.
Donc, même question concrètement. Donc, en fait, les musiciens s'inspirent des témoignages et ouais, réalisent ça après le...
Oui, en fait, ils ont reçu les interviews brutes. Et ensuite, en fait, des musiciens et des professeurs du conservatoire ont eu des fois des coups de cœur, en fait, sur le lot d'interviews réalisées. Et en fait, ils ont choisi de mettre en musique ces portraits.
C'est vraiment un travail de coopération et de proximité.
Okay.
Il y a déjà eu 4 événements festifs dans le cadre des Chants du Blône. Donc c'est les dimanches au Blône, c'est ça. Le dernier se déroulera en mars 2019. Et donc le premier a eu lieu en mars 2017. Et donc c'était pareil, volonté de créer l'interaction, un peu au-delà de cette exposition, justement.
Oui, tout à fait. En fait, ces week-ends ponctuaient, comme je le disais tout à l'heure, les temps de création des portraits. À chaque restitution, donc sur les 4 derniers week-ends, on avait 5 portraits finalisés, présentés en fait au public. C'était aussi le moment pour nous de proposer aux habitants et puis aux curieux de venir interroger un peu l'espace public. Comme le disait Agathe, le projet se réalise dans le temps, en fait, de la réhabilitation du quartier. Et pour nous, c'était important aussi de questionner justement les usages un petit peu de l'espace public. On a créé du mobilier avec les participants, on a pas mal de petites...
Des balades gustatives.
Des balades gustatives, voilà, tout à fait.
Oui, ça, je voulais demander de revenir sur quelques temps forts, nous expliquer un peu la démarche, comment ça a pu se passer, ces moments de rencontre, justement.
Alors, chaque moment, enfin, chaque temps fort était organisé en partenariat avec des acteurs du quartier, le centre social, centre culturel, bibliothèque, plusieurs associations, parce que c'est un quartier qui est aussi très, très riche de façon associative et culturellement. Et donc, chaque week-end avait une thématique précise, et puis on découlait justement des activités, des animations, et puis des spectacles. Donc, sur quatre week-ends, on avait pas mal de diversité. Et puis, le dernier en question, c'était vraiment un aboutissement, parce qu'on avait, donc la coopérative Hôtel du Nord et l'association Safi, qui sont des structures basées à Marseille, qui sont venues à Rennes en résidence pendant toute une semaine au Blône pour reproduire une démarche de territoires qu'elles ont déjà effectuées sur les quartiers nord de Marseille, dans l'idée de créer une balade donc gustative à partir de la flore en fait du quartier. Donc elles sont allées avec les habitants cueillir des plantes dans le quartier pour les cuisiner. C'est des choses qu'on compte justement continuer d'élaborer pour découvrir autrement ce territoire.
Et donc le dernier a lieu en mars 2019, c'est ça?
Alors du coup, pas vraiment. Ah. Justement, la temporalité du projet risque de se rallonger un petit peu, parce que justement, au niveau de la finalité, pour la finalité du projet, on souhaite créer des bornes, dans les espaces verts du quartier, en fait, qui doivent donner accès justement à ces portraits sonores. Initialement, c'était pensé comme des QR codes grâce auxquels
cette technologie est certainement peut-être pas tout à fait accessible. Et en fait, il va peut-être y avoir directement des haut-parleurs accessibles à tous. Et donc, c'est une technologie qui va être mise en place, et donc ça demande un petit peu plus de temps
de réflexion et d'études. Donc, c'est encore en cours.
Et c'est très intéressant, justement, ces bornes QR, puisque c'est en quelque sorte déjà un dispositif de rencontre, puisqu'on écoute des portraits d'habitants et les principaux écouteurs, si je puis dire, sont les habitants eux-mêmes. Donc, surtout que les codes QR, c'est quand même quelque chose qu'on fait avec son smartphone. Ouais. Donc, c'est intéressant de voir un petit peu, il y a un petit paradoxe. On est scotché à nos téléphones toute la journée, et puis le code QR nous permet d'entrer en interaction avec des portraits très singuliers, en fait. Il y avait un petit peu cette idée-là aussi.
Cette idée-là de pouvoir, écouter directement dans l'espace public par le biais de ces codes, effectivement, de juste se balader et puis d'avoir la curiosité de prendre son téléphone et d'écouter un portrait. Mais on s'est aussi rendu compte que ça nécessitait le fait d'avoir un smartphone, de savoir l'utiliser, d'avoir un réseau. Et qu'au final, ce n'était pas si accessible que ça. Donc l'idée, c'est de faire progresser un peu ce dispositif pour que ce soit encore plus accessible.
Accessible à tous. Moi, j'avais envie de revenir sur l'origine du projet. Donc ça date de 2016, la mise en place, vraiment le tout début. Est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui a vraiment mis en place ce projet au tout début? Vous pourriez nous parler
Au niveau de l'origine du projet, ça s'est fait vraiment en concertation avec la ville et avec le conservatoire de Rennes, puisque c'est en réponse à un appel à projet qui a été lancé par la ville de Rennes sur les quartiers qui sont actuellement en réhabilitation. Et puis, comme en fait le conservatoire va bientôt s'implanter sur le Blône, l'idée c'était aussi de pouvoir croiser tout ça et d'apporter un petit peu
préfigurer le futur aménagement
complètement.
Très beau croisement.
Et donc c'est un projet qui a déjà plus de deux ans et demi.
Tout à fait.
J'ai une question, est-ce que jusqu'ici tout va bien?
Jusqu'ici tout va bien, ouais, complètement, on est vraiment satisfaits, parce qu'on a pu, notamment par le biais aussi des week-ends, voir une belle évolution dans le projet.
On a un groupe d'habitants qui est très investi.
Ouais, complètement.
Donc c'est un projet qui est vraiment participatif et où des gens vraiment ont réussi à s'intégrer.
On va justement créer un bon groupe de suivi pour voir aussi comment les habitants vont pouvoir se réapproprier le projet une fois que notre travail sera terminé, que les portraits seront implantés sur le quartier. Peut-être justement continuer sur cette idée de balade sur le quartier pour vraiment le faire découvrir autrement, parce que l'idée aussi du projet, c'est pour les habitants du Blône, mais aussi permettre à tout Rennais ou toute personne de, de pouvoir découvrir justement le Blône autrement, au-delà un peu de l'image qu'on peut en avoir
parfois. Ouais. Et de découvrir des parcours de vie avec des habitants qui peut-être un jour proposeront eux-mêmes leur propre balade et un propre parcours.
Et il y a une volonté de donner les outils du coup aux habitants pour la suite, quoi.
Ouais, complètement. On est vraiment dans une démarche de transmission, là, justement. On réfléchit à tout ça en ce moment.
Ouais.
C'est super. Bah, merci Agathe et Margot du coup pour votre présence sur SILAB pour nous parler de ce très très beau projet. Donc pour rappel, l'exposition débute aujourd'hui jusqu'au 30 novembre. Donc c'est à l'hôtel de Ré Métropole, donc station Clémenceau. Merci beaucoup.
Merci. Merci beaucoup.
Et on fait une petite pause musicale avant de retrouver nos étudiants de kiné. Tout de suite, pause musicale.
Dans le cadre de leurs études, Axel, Émilien, Guillaume et Thomas réalisent une soirée caritative électrothérapie. 100% des bénéfices seront reversés à l'association Kiné du Monde. Bonjour à vous les gars.
Bonjour.
Salut. Bonjour.
Alors, première question du coup, d'où est venue l'idée en fait d'organiser une soirée comme ça?
Du coup, c'est un projet de base de cours. Donc, il y a eu un projet similaire qui a été fait à Brest avec les étudiants GEA. Donc, ils ont invité un collectif de Brest à mixer dans une boîte. Et tous les bénéfices ont été reversés à l'association Une Nation pour Haïti. Donc la soirée, c'était Electro pour Haïti, je crois. Et du coup, comme nous, on avait un projet de cours à faire par rapport à la kiné, on s'est dit qu'on pouvait faire un projet similaire du coup à Rennes. Et donc on a contacté le 8-8 et différents collectifs et ils ont directement répondu à présent.
D'accord, ok. Donc du coup, je le rappelle, 100% des bénéfices seront reversés à l'association Kiné du Monde. Donc en fait, voilà, comment va se passer la soirée concrètement? C'est quoi le programme?
Alors, en gros, on a invité 3 collectifs qui viennent un peu de partout en Bretagne. Il y aura donc Acte Sacrou qui viennent de Quimper, Second Degré qui viennent des Côtes d'Armor et Turtle Corporation qui viennent de Rennes. Donc ils viennent mixer bénévolement et donc eux, ça leur permet de se faire connaître aussi par le public rennais. Et voilà, donc en gros, il y aura 2 salles dans le 88, une house assez dansante et une techno où ça tapera un peu plus. Et une 3e salle années 80 pour ceux qui auront envie de faire une petite pause techno pendant la soirée.
D'accord, ok. Ça n'a pas été trop compliqué quand même de trouver tous ces collectifs?
En fait, c'est des DJ d'une 20aine d'années, donc de notre âge environ. Donc on a des amis en commun pour la plupart et du coup on a réussi à les voir comme ça.
Est-ce que vous auriez envie de vous mettre en collaboration avec d'autres écoles de kiné en France ou peut-être juste en Bretagne? D'accord.
C'est peut-être un projet. Déjà, on va faire la première édition qui va se dérouler jeudi. Et ensuite, pourquoi pas, c'est à voir si on réitérera ça l'année prochaine ou peut-être avec d'autres écoles, du coup.
Ouais, c'est vrai qu'à voir sur plus long terme, quand même, mais déjà, si ça se passe bien, cette semaine serait un bon point. Et voir si derrière, on se met plutôt une vraie association, parce qu'on n'est pas encore une association, nous. Donc peut-être après, voir si on peut faire un projet à plus long terme et à plus grande envergure. Quoi.
Vous avez demandé de l'aide à vos professeurs, peut-être, ou non, c'est vraiment juste une initiative purement étudiante?
On a eu l'accord, déjà. Il y a le professeur et après, non, sinon c'est que nous, c'est vraiment un projet de cours. Quoi.
En quoi, selon vous, quand même, c'est important ce genre d'initiative?
On voulait faire un projet caritatif pour vraiment mettre en lumière Kiné du Monde, qui est une association qui fait partie de nos études. Donc ils exercent, eux, ils forment du personnel localement dans le monde entier, donc ça permettait de faire une petite dédicace à cette association.
Vous aviez déjà fait des événements ou des choses en bénévolat?
Non, c'est le tout premier qu'on fait.
D'accord, ok. Vous êtes combien du coup à bosser sur ce projet à peu près?
On est 5 du coup, mais il y en a un qui ne pouvait pas venir aujourd'hui. Du coup.
Bon, on pense à lui.
Salut Youn.
Il y a encore des choses à faire avant que la soirée soit complètement prête?
Du coup, là, c'est surtout la com à fond, ouais. Avec les partages, notamment avec la page Facebook, l'événement Facebook qui a été créé il y a 10 jours maintenant, qui s'appelle du coup Kiné Solidaire 88 Life Club, où il y a eu quand même pas mal de partages, et sinon, c'est des affiches dans la rue, des flyers qu'on distribue, et du bouche à oreille. Quoi.
D'accord, ok. Du coup, est-ce que vous avez autre chose à ajouter, les gars?
Pas forcément.
Dernier message à nos auditeurs.
Venez jeudi.
Soyez nombreux. Jeudi.
Puis bon, c'est quand même l'occasion de passer une bonne soirée pour une bonne cause. Puis c'est pas très cher, quoi, en plus. C'est énorme, vraiment, ça va être vraiment sympa. Les artistes sont vraiment bons. Quoi.
D'ailleurs, c'est quoi le nom des artistes qui seront là? On va faire un peu de pub en même temps.
Alors, tu veux dire d'ailleurs pour Atsa?
Donc pour Atsa Crew, il y aura Vesti, VST, et il y aura Minscape.
D'accord, ok. Ils jouaient déjà dans d'autres salles?
Ils ont fait plusieurs soirées, mais plutôt dans le coin de Quimper.
D'accord. Voilà.
Et puis donc VST, il fera plutôt de l'acide. Et Minscape, il sera plutôt dans le style minimal.
Ok, voilà. D'accord.
Ouais. Ça, c'est deux des artistes, du coup, d'un collectif. Quoi.
Voilà. Et pour les autres, si tu veux dire?
Pour les autres, du coup, il y a Jola et Lalou, donc, qui vont mixer en B2B. Il y a Elwo et Booznose, je crois, en B2B aussi, donc de Second Degré, donc des Côtes d'Armor. Et pour la Turtle, il y a Shab et Minscape. Et Trauma, du coup.
Ouais, vous avez vraiment été aidé quand même par le collectif de Brest. Ouais, ils vous ont filé des conseils.
On a vu, du coup, moi je l'ai vu, du coup, c'était un ami à nous. Je l'ai vu, mais au final, c'est quand même différent parce que eux, c'était vraiment dans l'événementiel, comme c'était GEA, donc c'est plus dans tout ce qui est dans la gestion, tout ça. Nous, il y a plus de détails qu'eux doivent gérer que nous, on n'avait pas à faire, quoi, niveau financier, tout ça.
Vous n'avez pas envie de vous mettre en collaboration aussi avec les autres écoles de Rennes? Vous vouliez que ça reste purement kiné?
Ah, pas du tout, nous, les portes sont ouvertes, on reçoit toute proposition.
Peut-être pour l'année prochaine, du coup.
Peut-être pour l'année prochaine, ouais.
Bon, merci beaucoup les gars, si vous avez autre chose à ajouter.
Non, bah toutes les informations sont sur la page Facebook, sinon si les gens veulent plus d'infos, et puis voilà, c'est tout.
Ouais. Et les préventes sont à 5 euros.
5 euros seulement. Il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde, alors ouais. Dépêchez-vous à les cliquer.
Et bonjour aux copains de Brest de l'Artelard.
On pense à eux, merci beaucoup les gars.
Merci.
Bah, merci à vous.
Maintenant on va faire une petite pause musicale, je pense.
Oui.
Allez. Ah non, pas pause musicale, il n'avait pas envie, Claire. Oh,
je crois qu'ils aiment bien ce qu'on dit.
Pas encore.
Mais juste, moi j'avais une question à ajouter. Kiné du Monde, l'association, en fait concrètement, qu'est-ce que c'est...
Ah oui, alors c'est une association à but non lucratif, donc ils exercent déjà depuis 30 ans, donc dans tout le monde entier, et donc ils essayent de former du personnel sur place, donc pour essayer de faire perdurer des soins et aux personnes qui sont dans la précarité, plus ou moins. Donc c'est en Afrique, Amérique du Sud, Asie, et voilà. Et c'est pluridisciplinaire, donc il n'y a pas forcément que des kinés, il y a aussi des infirmiers, des psychomotriciens, des médecins, des ergothérapeutes. Donc, voilà.
Donc ça s'adresse vraiment aux corps médicaux
médicaux et paramédicaux.
Très bien, donc 100% des bénéfices seront reversés à Kiné du Monde, on le rappelle.
C'est ça.
Bon.
Thank you.
Inattendu, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Je terminerai sur cette émission sur une citation de Stan Lee, disparu hier. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oui, c'est dans Spider-Man, et alors ? Je vous laisse méditer sur ces mots et je vous dis à demain, même heure, mêmes ondes.